Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. Le temps est précieux à Avignon, il est 14h30, ça tombe bien, on n'a pas encore de retard, donc on va commencer tout de suite cette rencontre quand le travail entre en scène, ou la façon dont le théâtre aujourd'hui se représente le travail d'aujourd'hui. C'est une rencontre co-organisée, co-pensée, co-coordonnée avec nos amis de Théâtre et Monde du Travail, dont j'ai le digne président à ma droite, Gilbert Edelin, et qui se fait dans le cadre d'une... Si, tu es digne quand même.
Oh, digne, bon, admettons.
Qui se déploie dans le cadre d'une initiative de l'association Travail et Culture également, qui est une plateforme de ressources numériques, qui s'appelle Culture Art Travail, et qui se propose de donner de la visibilité aux acteurs dans leur diversité qui travaillent sur cette question du travail à partir des moyens culturels, artistiques et scientifiques. Cette plateforme elle est en ligne sur le site de Travail et Culture, www.travailetculture.org, et donc vous y retrouverez un agenda, par exemple, éditorialisé d'initiatives qui concernent ce champ, culture, art, travail, si on peut qualifier ça d'un champ d'ailleurs, on pourra en discuter, un peu partout en France, des conférences scientifiques, des pièces de théâtre, des sorties d'ouvrages, mais aussi des films. On retrouve aussi dans cette plateforme Culture Art Travail un espace dédié aux œuvres artistiques sur le travail pour pouvoir faire circuler ces œuvres et que chacun et chacune puisse se les approprier et pourquoi pas les diffuser. Et puis un espace qui s'appelle Les Rencontres et le Réseau. Alors les rencontres, on y est, c'est des rencontres annuelles. On a produit une première rencontre en 2017 au Musée des Arts et Métiers, qui était un peu une rencontre d'ouverture, cette plateforme Culture Art Travail. Et l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de multiplier tous les ans une rencontre plus thématique, plus localisée. Donc aujourd'hui, c'est Théâtre et Monde du Travail. L'année prochaine, ça sera autre chose. Et donc, dans cet espace, les rencontres et le réseau, vous retrouvez une synthèse, en fait, des rencontres précédentes. Pour l'instant, il y en a une. Il y en aura deux à partir de dans pas longtemps. Et les noms des structures qui composent les membres du réseau Culture à Travail. On a commencé à 7 en mars 2017. Aujourd'hui, on est 26. Il y a des compagnies de théâtre, des petites associations, des institutions qui toutes, indirectement ou directement, s'intéressent à cette question du travail. Mais pour l'heure, quand le travail entre en scène, cette rencontre autour de la façon dont le théâtre contemporain représente le travail d'aujourd'hui, j'ai quelques... On va pas nous vous faire un cadrage. On a une spécialiste, Bérénice Abidikim, qui va cadrer cette rencontre. En tout cas... En dire quelque chose. Je passe directement, parce que normalement, on avait 5 minutes de présentation, donc je pense que je suis à mes 2 minutes 30. Je passe la parole à mon ami Gilbert Edelin, président de Théâtre et Monde du Travail.
Merci Nicolas. Oui, je vais brièvement dire un mot de notre association, Théâtre et Monde du Travail. Elle a été créée, d'ailleurs... à la demande du Festival d'Avignon en 2013, parce qu'on avait une proposition de table ronde déjà dans le cadre des ateliers de la pensée en 2014, qui a eu lieu, mais il fallait qu'on ait une existence légale alors que nous ne constituions à ce moment-là encore qu'un réseau. Et d'ailleurs aujourd'hui nous sommes un réseau de praticiens et d'experts des deux mondes au carrefour de ces deux champs d'activité. Et parce que nous sommes conscients que le théâtre peine à investir ce champ du monde du travail et de l'entreprise et même plus globalement de l'économie à la hauteur de l'influence qu'il a sur la société, puisque concrètement sur la vie de tous les jours on voit bien que notre vie est gérée comme une entreprise ou presque, et symboliquement aussi, et là on en parlera plus précisément dans la deuxième partie, sur nos imaginaires. Alors on entretient un répertoire sur les spectacles sur ces thématiques. Et on fait de l'information, voilà nos activités, comme aujourd'hui, par les canaux de communication d'aujourd'hui, que sont Internet, etc., et par des événements comme celui-ci. Alors, un mot quand même sur le pourquoi avoir monté cette rencontre. Je ne dirai pas tout ce qu'il y a là, je te rassure. D'abord, pour y voir plus clair. Y voir plus clair parce qu'un état des lieux s'impose pour comprendre où on est et le monde du travail, en pleine mutation, dont on parle tous les jours, ou très souvent en tout cas, une mutation accélérée, et aussi un moment où le théâtre traverse, comme le dit Ostermeyer, une période de gros temps. Bon. Et puis, dans cette rencontre, il est prévu de partir d'exemples représentatifs et d'analyser pourquoi et comment le théâtre peut et tirer parti ou devrait tirer parti de la richesse de ces thématiques. Et on va essayer d'expliciter ce qu'est la richesse de ces thématiques au travers de ces exemples. Et faire prendre conscience de l'importance de s'y intéresser et de la richesse ainsi que de l'intérêt pour le théâtre de s'y attaquer, de l'investir, ça nous paraît un point essentiel et c'est une des raisons d'être de cette rencontre. Avec à la fin un espoir que cette rencontre éclaire des perspectives et constitue une étape constructive vers un renouveau de cette thématique au théâtre. Ça peut paraître ambitieux dit comme ça, surtout dit en 30 secondes, mais j'espère qu'à la fin de tout ce qu'on aura discuté, vu et entendu, on pourra avoir une petite idée là-dessus. D'ailleurs, hasard du calendrier, mais c'est en ce moment, vous savez qu'il y a un certain procès qui a lieu et qui n'est pas sans rapport avec nos discussions, mais on n'y est absolument pour rien. C'est une coïncidence de date, indépendante de notre volonté, évidemment. Mais c'est quand même intéressant de le noter. Alors, comment on a décidé de l'organiser ? Eh bien, d'abord, en essayant de savoir de quoi on parle. Alors, on compte sur toi, Bérénice, pour nous expliquer. Ensuite, en fait, c'est une des rares universitaires, franchement vraiment très rare, à travailler sur le théâtre politique et singulièrement lorsqu'il s'intéresse au monde du travail, avec des idées concrètes sur le sujet. Et je tiens à souligner l'existence, parce qu'elle est à l'origine de la revue en ligne Taêtre, qui est accessible et qui, dans son premier chantier, qui est sorti il y a 3 ans.
2016.
Oui, c'est ça, il y a 3 ans. On parlait effectivement de énormément, enfin, du monde du travail. C'était centré sur le monde du travail et le théâtre, évidemment, sous les différents aspects. Et c'est l'auteur d'un ouvrage remarqué sur les cités du théâtre politique en France. J'imagine que tu pourras en dire beaucoup de choses. Voilà. Et puis, pour aller plus loin, comment on va par des tables rondes. Mais là, je vous renvoie au programme que vous avez devant les yeux et qui vous dira tout sur... en tout cas, on a voulu illustrer, et je termine là-dessus, illustrer, ne pas seulement avoir des débats, mais aussi illustrer par des vrais extraits de vraies pièces qui sont montées par des intervenants que vous allez voir tout à l'heure et des comédiens qui vont faire ces lectures. Voilà.
Et juste un petit mot de remerciement avant de passer le micro à Bérénice. Pour remercier le Festival d'Avignon... parce que cette rencontre est le fruit d'un partenariat avec le Festival d'Avignon, l'ISTS qui nous accueille ici et la Maison des professionnels du spectacle vivant. Merci à eux trois.
Et merci aussi à vous d'être là parce que vous êtes nombreux.
Bien, donc me revient la lourde tâche de cadrer. Je ne sais plus quel autre mot vous avez mis là qui sont bien. Savoir de quoi on parle. Voilà. En tout cas, je vais tâcher de tirer un fil, quelques fils, pour introduire les tables rondes, mais qui seront, je pense, le moyen le plus consistant avec les lectures, justement, d'essayer de cerner toutes les choses dont on parle, parce qu'on va en parler de beaucoup. Je trouve que le plus simple, souvent, c'est de commencer par dire d'où on parle et pourquoi on s'intéresse à ce pourquoi on s'intéresse. Donc, effectivement, Gilbert le rappelait, avec Armel Talbot, avec Martial Poisson aussi. On est quelques-uns parmi les universitaires et chercheurs en études théâtrales à s'intéresser à la question du travail. Alors, de quoi on parle ? De quoi est-ce qu'il est question ? Je pense que là, je parlerai pour moi et aussi pour Armel Talbot et donc du numéro de la revue Taêtre dont parlait Gilbert, qui s'appelle « Scène du néo-management ». Je pense qu'on est parti avant tout d'un état de souffrance au travail, dans notre travail à nous, d'universitaires, c'est-à-dire de chercheurs et enseignants, et de plus en plus bureaucrates, bon gré mal gré, de l'université publique française, et d'un sentiment aussi, je crois, d'une sorte de miroir entre nous, la manière dont on concevait un hiatus entre ce que le travail devrait être, pour nous, ce qu'on pensait qu'il serait, et sa réalité. Donc un miroir entre notre vécu et celui des artistes. Et donc ce qu'on a d'emblée voulu travailler, c'est
chez les artistes un sentiment double, si maintenant je parle plus des artistes de théâtre, un sentiment double de considérer à la fois le monde du travail et particulièrement d'autres mondes du travail et spécifiquement le monde du travail dans l'entreprise privée, comme une terre inconnue, comme une terre étrangère et comme un espace vraiment d'altérité. Donc cette idée que ça, c'est depuis une position d'extériorité et depuis un monde protégé, par contraste, que les artistes de théâtre observeraient ce vrai monde, cette vraie vie, où il y aurait cet état de souffrance au travail beaucoup. Et qu'en même temps, il y avait de plus en plus dans les œuvres des années 2000 notamment, un retour réflexif sur ce que cet autre monde du travail pouvait dire en fait du monde du travail artistique lui-même. Donc en gros, ce qui je pense est important à saisir comme dynamique, sinon dialectique, c'est cette tension entre le théâtre face au monde du travail hein, et au monde de l'entreprise privée, avec cette idée que du coup le théâtre serait une caisse à la fois, un espace de critique et un espace d'altérité, un espace où penser cet autre monde du travail et ce monde du travail comme un autre, et en même temps le théâtre comme monde du travail. Et ça, c'est donc je vais développer ces deux aspects-là de la question qui sont totalement différents. Ce second aspect-là de la question est arrivé beaucoup plus tardivement. Et effectivement, tout comme il y a peu d'universitaires qui s'y intéressent, les artistes ont aussi mis très longtemps à s'y intéresser, puisque ça implique un examen qui est peut-être plus coûteux, plus douloureux, celui d'examiner les pratiques du champ théâtral lui-même, en tant que c'est un monde du travail qui n'est pas, vous le savez sans doute, dénué des caractéristiques du monde du travail capitaliste. Voilà, donc ça j'y reviendrai, ce sera le moment peut-être un peu moins glorieux de la présentation. La première chose à dire sur la manière dont le théâtre se met face au monde du travail comme une scène critique, une scène qui vise à la fois un enjeu de description, un enjeu d'analyse, un enjeu de critique et potentiellement aussi un enjeu de transformation. La première manière de le saisir, c'est de saisir la séquence historique dans laquelle s'inscrivent ces tentatives, à la fois en termes de spectacle, en termes d'écriture aussi. Et cette séquence, on l'a beaucoup dit à partir d'un livre qui a fait date hein, dans l'histoire des sciences sociales, qui a aussi fait date et été discuté dans le champ, médiatique et politique. C'est le livre de F. Capello et Luc Boltanski sur le nouvel esprit du capitalisme, un livre qui est d'ailleurs maintenant, qui fête ses 20 ans, puisqu'il date de 1999. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, longtemps, peut-être un peu trop longtemps d'ailleurs, aux yeux même des auteurs, continuer à utiliser les grandes thèses et hypothèses du livre en tant qu'elles seraient opérantes pour dire quelque chose des transformations les plus récentes du capitalisme et notamment du management. Donc je résume là un peu les enjeux de ce livre-là, Le nouvel esprit du capitalisme, c'est de dire qu'en gros, après un premier temps, du capitalisme allant jusqu'aux années 68, donc au moment de la révolution de mai 68, on était dans un capitalisme autoritaire, un capitalisme assez associé et arrimé à une société patriarcale, la figure du paternalisme, que ce soit d'ailleurs sur le plan du monde du travail ou dans la sphère privée ou dans la sphère politique. De Gaulle a pu incarner aussi ce type de figure-là. Et on serait passé à de nouvelles configurations politiques, mais aussi à une nouvelle manière de gérer les travailleurs au sein du monde du travail et au développement donc de nouvelles théories du management qui mise davantage sur la subjectivité et la participation, en fait, et sur des logiques d'adhésion et plus de contraintes, et donc sur la participation active, alors si on veut adopter une perspective critique, hein, sur la participation active de ceux qui subissent le management à leur propre asservissement, avec notamment des techniques d'horizontalisation apparente des relations de pouvoir dans le monde du travail, avec aussi, cette évolution-là, elle serait allée de pair avec la mise en avant de nouvelles figures, la figure des cadres, sur lesquels Boltanski d'ailleurs avait déjà travaillé avant, les cadres qui sont ni les patrons ni les ouvriers, qui étaient un peu les figures de proue dans les représentations politiques, mais aussi dans les représentations artistiques, hein, puisque bien souvent les représentations artistiques sont aussi des caisses de résonance, d'écho, des représentations sociales dominantes. Et donc là, sans les faire complètement disparaître, hein, ces figures de patrons, ces figures d'ouvriers, à partir des années 70, on a vu émerger les figures de cadres qui sont pris entre le marteau et l'enclume, hein, qui sont à la fois des employés et qui gèrent d'autres employés, qui sont à la fois au-dessus de certains et en dessous d'autres, et qui donc incarnent des figures plus complexes, et d'ailleurs auxquelles vont s'arrimer des dramaturgies à partir des années 90-2000, qui seront davantage des dramaturgies de la complexité, pas simplement de la complexité idéologique, mais aussi de la complexité psychique. Et c'est un autre aspect dont il sera question tout à l'heure, hein, la formule c'est vivre et exister au travail. Parmi les modifications plus récentes, hein, d'ailleurs des techniques de management, puisqu'évidemment elles ne cessent de se raffiner, de se modifier, j'y reviendrai après, notamment au fur et à mesure des critiques qui lui sont adressées. Et Dieu sait qu'il y en a eu au cours des décennies. Et donc parmi les critiques qui ont été faites, il y avait justement cette question à la fois de la violence, de la contrainte, mais aussi du vide. Ça, c'était du vide existentiel, le fait que le travail ne nourrissait pas. Et c'est bien pour ça que toute la politique des loisirs, par exemple, qui avait été inventée depuis le Front populaire, c'était avec cette idée qu'il faut un temps libre qui soit un temps où on puisse investir ce qui fait que l'humain est humain, hein, où on puisse s'investir émotionnellement, affectivement, avec l'idée que le travail ne remplit pas une vie émotionnellement et en termes d'investissement de soi. Et ça, c'est précisément une critique qui a été sans doute la mieux incorporée par le capitalisme post-68. Et donc, beaucoup de techniques de management visent précisément à faire adhérer subjectivement les travailleurs pour les rendre plus productifs et efficaces, hein, bien sûr, mais en leur disant qu'il y va de leur définition d'eux-mêmes. Et qu'on peut s'épanouir par le travail. D'où aussi la nécessité en face pour les représentations artistiques d'être plus complexes et d'être complexes à la hauteur de cette nouvelle proposition alléchante et en même temps retorse des nouvelles techniques de management, puisque bien sûr qu'a priori, dans la mesure où on passe de fait beaucoup de temps au travail, l'idée que l'on trouve à s'y épanouir, à y mettre de soi, a priori on a tous envie d'adhérer à cette proposition-là. Et la question, c'est évidemment celle des, et ça je pense qu'on y reviendra abondamment tout à l'heure sur les nouvelles techniques managériales, mais la question c'est celle de ce que cela fait, justement, c'est cette auto-contrainte, hein, tout ce travail d'incorporation et d'intériorisation des normes et des attentes qui, en fait, n'ont pas du tout pour objectif, le capitalisme ne cherche pas le bien-être des gens. En revanche, il peut, dans la mesure où ce sera un outil au service de sa finalité qui est d'augmenter le profit, il peut tout à fait accepter et même encourager ce type d'outil. Mais dès l'instant que cet outil cessera d'être performant, ou si par exemple il est de nouveau prouvé, puisqu'il y a aussi toute une prolifération d'études scientifiques sur les différents styles de management. Dès qu'il sera de nouveau prouvé qu'un management par la peur, et c'est vraiment une catégorie qui existe, sachez-le, est plus efficient, c'est-à-dire a un rapport coût-bénéfice meilleur que le management de la bienveillance et le management par les affects est positif. Donc dès qu'il sera prouvé qu'il est plus efficace, bien sûr qu'on passera de nouveau à ce style-là. Donc, puisque bien entendu, la finalité, ça n'est pas l'épanouissement des individus, la finalité, c'est d'augmenter le profit en utilisant tous les outils qui sont les plus aptes pour l'obtenir. Et donc, évidemment, les représentations artistiques et l'écriture en particulier, il me semble que c'est là-dessus qu'il y a eu le travail le plus rigoureux qui a été effectué. L'écriture est l'espace où c'est cette complexité-là et ce que ces révolutions, non pas simplement des techniques en tant qu'elles sont objectives et extérieures, mais ce que ces techniques font à nos subjectivités, est vraiment ce qui a le plus intéressé les artistes. Alors on y reviendra tout à l'heure, les textes de Rémi DeVos, les textes d'Alexandra Badea, les textes de Richter, entre bien d'autres, sont des exemples très, très marquants, il me semble, de ces tentatives. Et tous saisissent, il me semble, à la fois les effets du capitalisme et des techniques de management liées à des formes de violence explicites. Ils ne renoncent pas à ça, et c'est très important, parce que selon les échelles aussi, je vous parlais des figures de travailleurs, le management de la violence, le management de la brutalité, il n'a jamais cessé d'être utilisé pour, ou plus exactement contre, les ouvriers, par exemple, ou les employés, là où les techniques sont plus diverses et oscillantes pour les cadres, entre précisément un management de la bienveillance et aussi de l'autocontrôle, et parfois aussi le management de la brutalité. Alors je voudrais juste vous lire un tout petit extrait de Alexandra Badea et particulièrement de sa pièce Burnout, que je trouve intéressante parce qu'elle vient cibler cet endroit-là de ce management qui est du prix à payer de cet investissement de la subjectivité, puisque le burn-out, c'est ça très précisément. Le burn-out ne peut pas concerner des travailleurs qui n'investissent pas d'eux-mêmes dans leur travail. Pour qu'il y ait burn-out, il faut qu'on ait cherché, que le sujet ait cherché vraiment à donner le meilleur de lui-même, avec l'idée qu'il en allait non seulement du bien-être collectif, mais aussi de sa réalisation personnelle. Et l'échec, du coup, de cette mission-là n'est pas simplement un échec professionnel, mais aussi un échec existentiel. Et c'est ce qu'ont à traiter aujourd'hui les psychanalystes qui s'intéressent eux aussi, et je pense que ça pourrait être aussi d'excellents invités de ces débats-là, puisque eux ont affaire dans leur cabinet à ces transformations-là aussi, de très près. Donc je vous lis juste cet extrait avant de dire quelques mots du théâtre comme monde du travail. Donc c'est l'évaluer. Travailler plus, chaque jour. La réussite est possible, tout est possible. Travailler plus, c'est possible, 10 heures par jour, même 12, je peux monter à 12 si je veux, des heures sup. Il faut faire des heures sup, il faut que je montre que je suis capable, je suis très capable. Je mérite d'être promu, je le mérite. Je travaille plus et je mérite plus. Jeune cadre dynamique, c'est ça. Je suis une jeune cadre dynamique. Il ne faut pas que j'oublie, je suis dynamique et je vais être de plus en plus dynamique. Rentabiliser le temps, gagner du temps de plus en plus, manger devant l'ordi des surgelés. Je mets la barquette dans le micro-ondes, 10 minutes, pendant que ça chauffe, moi je travaille, je ne m'arrête pas. Je ne perds pas mon temps, surtout pas. Travailler plus, de plus en plus. Le plat est prêt. Non, je ne le mets pas dans une assiette, je le mange directement dans la barquette, avec une fourchette en plastique, c'est plus rapide. C'est plus facile, pas de vaisselle à faire, pas de temps à perdre. Travailler plus, de plus en plus. Pas de pause café, pas de cigarette, portable éteint. Du chewing-gum à la caféine. Je mâche et je travaille. Je travaille et je mâche. Le rythme de la mâchoire en synchro avec le rythme du cerveau. Dynamique, de plus en plus dynamique. Alors, je vous lis pas la suite, mais ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est qu'à la fois on sent la dimension critique, hein, avec ce rythme très très saccadé dont on sent qu'il est assez proche de la suffocation au bout d'un moment, et en même temps on voit aussi par rapport à d'autres textes qui travaillent par exemple sur le plan des pronoms, sur un effacement de la subjectivité. Là, au contraire, il n'est question que du jeu. Je, ce que je fais, ce que je suis capable de faire. Et donc, il est vraiment question aussi de cette auto-contrainte. Et le texte explicite aussi très bien les raisons, en fait, parce que ce n'est pas du masochisme du tout dont il est question. Parce qu'il y a tout ce travail qui nous travaille, qui nous traverse, hein, d'érotisation, en fait. Et d'érotisation, non pas simplement du pouvoir, qui a lui longtemps été érotisé, et ça, la littérature est déjà abondante là-dessus, mais aussi de l'érotisation du mode de vie et de l'érotisation du rapport à soi que produirait justement ce statut de jeune cadre dynamique. Hein. Cette idée que on est efficace, on est sexy, on est dans le dépassement de soi, tout le réinvestissement des métaphores sportives, par exemple, tout le travail aussi d'héroïsation, hein, d'érotisation et d'héroïsation des travailleurs qui sont aussi désirables en tant qu'ils sont ultra performants. Et donc tout le travail, c'est de se déprendre aussi de ces formes d'érotisation-là et d'héroïsation-là. Et c'est un travail qui est compliqué parce que ce n'est pas du tout des lieux qu'on a l'habitude de critiquer, qu'on a l'habitude d'identifier comme tels. Et donc là où il me semble que l'écriture dramatique a un fort potentiel aujourd'hui, c'est là-dedans. Et c'est peut-être plus là-dedans que dans le travail qui est aussi très très bien mené par Badea elle-même aussi, ou par Richter ou d'autres, sur la dénonciation du globish, de la langue néo-managériale complètement désincarnée et parfois qui retrouve d'ailleurs une forme de poésie tant elle devient délirante quand on accumule tous les sigles, tous les mots inventés, etc. Mais voilà, il me semble que cet endroit-là d'investigation de ce que ça fait à nos psychés est sans doute un des endroits les plus riches. Et ce qui, à mon sens, si je pouvais en appeler à de nouvelles écritures, ce qui manque encore un peu, même si c'est fait, c'est aussi pour ça que je parle de Badea et Richter, c'est l'effet retour. Alors pour le coup, Richter est quelqu'un dont la revue, on a un long entretien avec lui, avec Cyril Test, qui est un metteur en scène, qui a mis en scène des textes de Richter, notamment avec Nobody, un montage de textes de Richter. Donc tous deux parlent beaucoup en entretien, Ostermayer le fait aussi, Nordet aussi, de cette ambivalence du monde du théâtre, qui se pose comme, particulièrement en France ou en Allemagne, où on est dans un théâtre public, donc où on est dans une idée d'altérité, hein, du théâtre financé avec de l'argent public, des subventions d'État, donc on ne serait pas du tout dans une logique de marché, une logique capitaliste. Bon, si on me permet une critique à l'égard du Festival d'Avignon, on voit bien qu'on est dans une logique marchande, hein, avec des bulles spéculatives sur des artistes, avec une logique aussi de supermarché où chacun vient faire son choix. Les dispositifs de sélection peuvent eux aussi, des œuvres et des artistes, peuvent eux aussi être lus avec des grilles de lecture totalement identiques à celles qui sont utilisées pour travailler sur d'autres marchés économiques. Donc en fait, la frontière est bien plus poreuse qu'on voudrait le croire. Et là aussi, l'effet retour sur les subjectivités alors a été un peu traité par un sociologue, Pierre-Michel Menger, dans son livre lui aussi, hein, déjà assez ancien, Portrait de l'artiste en travailleur, où il parle de l'intermittent. Donc il parle pas en fait de la figure de l'artiste vraiment, il parle d'un régime d'indemnisation au chômage pour en montrer, en pointer l'ambivalence, hein, et il dit que c'est à la fois peut-être le modèle, il est perçu comme le modèle modèle, la pointe avancée hein, du modèle marxien du travail libre et émancipé, puisqu'il est délivré du lien de subordination avec l'employeur, puisqu'il y a une certaine maîtrise du temps de travail et de l'alternance entre les temps de travail et les temps de non-travail. Et en même temps, on peut aussi le voir comme la pointe avancée du capitalisme. Et d'ailleurs, de fait, on a beaucoup dit que le MEDEF s'opposait à l'intermittence, mais il y a aussi tout un courant du MEDEF qui voudrait élargir le modèle de l'intermittence à l'ensemble du monde du travail. Et des mondes du travail, précisément parce qu'il y a tout un enjeu d'externalisation totale du coût du chômage qui n'est plus financé par les employeurs, mais par les employés. Donc voilà. Le système est assez complexe et ambivalent politiquement. Donc ça a déjà été travaillé. Ce qu'il est moins, c'est encore une fois c'est l'ambivalence des artistes mêmes, de leurs attentes. Je finirai juste en disant qu'une autre... Un autre champ d'investigation qui commence à affleurer à peine, mais qui là est vraiment à saisir de toute urgence, je dirais, ce sont toutes les inégalités qui structurent le champ du théâtre et des arts vivants en général, mais quand même du théâtre en particulier. Alors, il y a des inégalités entre corps de métier, évidemment. Il y a notamment cette question de l'hégémonie du metteur en scène, hein, qui est précisément dans le système du théâtre public français, à la différence d'autres systèmes. Hein, par exemple, le système anglais est beaucoup plus centré sur l'auteur. Mais le système théâtral français fait que le porteur de projet, justement, ce jeune cadre dynamique, c'est le metteur en scène, c'est lui qui touche les subventions, c'est lui l'employeur de fait, même si juridiquement parlant, il ne l'est pas, mais le lien de subordination, il est bel et bien là. Alors, on parle de fidélisation. Et puis là aussi, justement, il faut saisir à bras-le-corps la question de l'érotisation des rapports et des jeux de séduction qui fait qu'on ne se vit pas non plus comme dans un monde du travail et bien évidemment on ne va pas visualiser le metteur en scène comme un employeur et puis de toute façon on a plutôt envie d'être choisi par lui et pas d'être recruté hein. Donc il y a vraiment toute une série de mécanismes d'évitement à voir le monde du théâtre comme un monde du travail donc ça c'est le premier site d'inégalité structurelle lourde et totalement invisible. Et puis il y a, alors c'est pas en tant qu'inégalité professionnelle qu'elles sont considérées, mais il y a des pulsions, des tentatives en ce moment, que ce soit sur la question des inégalités hommes-femmes, on peut saluer d'ailleurs l'évolution du Festival d'Avignon entre l'année dernière et cette année, sans doute grâce à la fougue et à la verve de Carole Thibault notamment, et suite à ça, à l'intervention dans le débat public de Reine Pratt, qui avait été l'autrice hein, du rapport, vous le savez, en 2006 sur les inégalités hommes-femmes dans le spectacle vivant, et qui a été, après l'année dernière, sollicitée de nouveau pour mesurer à quel point tout avait été dit et pas grand-chose avait été fait depuis. On est aussi dans un monde post-Weinstein qui commence un peu aussi à porter ses fruits. Vous avez sans doute entendu parler de cas de harcèlement qui commencent à être verbalisés. C'est aussi ça, hein, un monde du travail. C'est un monde où il faut qu'il y ait des lois pour prévenir des moments où les rapports de subordination excèdent très largement ce qui concerne la stricte sphère du travail. Et également des revendications de, alors on appelle ça la diversité, ce qui est un cache-sexe hein, pour parler des discriminations raciales d'une part, et du manque total de comédiens, auteurs, metteurs en scène qui ne sont pas blancs, qui sont autorisés à jouer et à accéder aux scènes au même titre que les autres. Donc tout ça, ça fait partie hein, de la question de quoi parle-t-on. Pour moi, elle est à envisager en un sens presque géographique, spatial en tout cas, tous les sites d'observation, tous les sites d'investigation. Voilà, donc j'ai essayé de vous en donner comme ça une petite série et je crois qu'il est à peu près l'heure que je m'arrête. Donc voilà, je vous laisse continuer voilà, et les fils. Thank you.